Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Les confraternités à l'honneur au Vatican, des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées autour du pape pour montrer la vitalité de la piété populaire. Reportage dans ce magazine. Le pape a appelé les confraternités à vivre l'évangile au quotidien et au sein de l'église sans hésiter à être des missionnaires. Trois axes rappelés avec force par le pape François. L'invité du dimanche, c'est Michel Fourcade qui nous parlera de Jacques Maritain, grand penseur dont on a commémoré à Rome cette semaine la mémoire. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Marée de parapluie ce dimanche, place Saint-Pierre. La pluie n'a cependant pas empêché les fidèles de venir une nouvelle fois très nombreux. Il y avait les membres des confraternités qui accomplissent en ce moment leur pèlerinage à Rome. Il y avait aussi tous les fidèles venus rencontrer le pape François, toujours aussi disponible pour chacun d'entre eux, notamment les handicapés. Parmi les parapluies, de nombreuses croix, crucifix et autres objets de culte, symboles de la piété populaire, symboles portés haut par les confraternités qui sont, selon le pape, une réalité traditionnelle dans l'Église qui a connu une époque récente, un renouvellement et une redécouverte. Olivier Bonnel est allé parmi ses pèlerins, place Saint-Pierre. Reportage.
La place Saint-Pierre avait des couleurs ce dimanche. La marée de parapluies multicolores faisait émerger ici et là drapeaux, fanions et calicots des confréries venues de toute l'Italie, mais aussi de Pologne, d'Espagne, de France ou d'Irlande. Tuniques de velours pourpre, habits violets ou colliers en argent représentant le Christ ou la Madone, ils sont venus en tenue traditionnelle pour ce grand rendez-vous de la piété populaire. Mais derrière les accents folkloriques que certains ont portés aussi au son de leurs fanfares, ces milliers de pèlerins sont venus partager leur foi et écouter le pape François. Sur cette place, a confié ce dernier, je vois une grande diversité de couleurs et de signes. Telle est l'Église, une grande richesse et variété d'expressions où tout est reconduit à l'unité, à la rencontre avec le Christ. Renata est membre de la confrérie de San Lorenzo di Casanova à Gênes. Elle est venue avec une soixantaine de ses confrères et un crucifix mis à l'abri sous la colonnade de Saint-Pierre.
Et la piété, in certi casi.
La piété, dans certains cas, devrait être plus intensément vécue, de manière diverse, parce que les conditions de vie sont difficiles, ici en Italie comme dans le reste du monde d'ailleurs. La pauvreté augmente, et donc nous devrions être plus compatissants en nous aidant les uns les autres, comme nous l'enseigne le pape François. À l'issue de la messe, certains distribuent des images pieuses et des médailles de la Vierge et le joyeux cortège se disperse dans les rues adjacentes à la place. Dans la foule, certains portent une longue robe violette. Oscar Galbès, sa femme Iris et leur petit garçon Daniel font partie de la confrérie du Seigneur du Miracle. Ils viennent du Pérou mais vivent à Rome. Leur paroisse dans le quartier populaire du Trastevere est le siège de la mission latino-américaine du diocèse.
Pour moi, c'est un événement très spécial, anche parce que je suis sud-américain et je vois que...
Être là, pour moi, c'est un événement très spécial, car je suis sud-américain. Et je crois qu'avec ce nouveau pape, la foi de tous sera renouvelée. La piété populaire part de la religion. Nous sommes catholiques et donc nous la vivons, nous l'avons en quelque sorte dans le sang. Ici à Rome, nous sommes environ 300 dans notre confrérie et nous avons aussi des membres à Milan, à Florence et à Turin. Avec cette fête d'aujourd'hui, nous avons renouvelé notre foi ou la croyance que nous portons. Et donc, nous sommes fiers d'être catholiques et nous allons de l'avant avec nos enfants, nos familles. Les fifres, tambours et tenues qui remontent parfois au Moyen-Âge ont donné un parfum particulier à Rome ce week-end, un parfum de rite et de piété toujours vivant malgré les siècles et qui sont l'un des visages de l'Église d'aujourd'hui.
Et lors de la messe, dans son homélie, le pape François est revenu sur trois aspects essentiels de l'action de ses confraternités. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Être conforme à l'Évangile, l'ecclésialité et être missionnaire. Le pape François a voulu rappeler avec clarté aux confraternités trois aspects qu'ils doivent respecter. Ces représentants de la piété populaire, définis comme un trésor de l'Église, une spiritualité et une mystique, doivent renforcer leur foi en ayant le souci de la formation spirituelle, de la prière personnelle et communautaire et de la liturgie. Le pape les a invités à ne pas se contenter d'une vie chrétienne médiocre et souhaite que leur appartenance aux confraternités soit un stimulant à aimer davantage le Christ. Cette piété populaire ne vaut que si elle est vécue au sein de l'Église, souligne le pape. Soyez une présence active dans la communauté comme cellule vivante, comme des pierres vivantes. Soyez un vrai poumon de foi et de vie chrétienne, invite-t-il encore, rappelant que leur manière de vivre la foi était légitime. Enfin, le pape a insisté sur un troisième aspect qui doit caractériser ces confraternités, être missionnaire et ce en accomplissant une mission spécifique, celle de garder vivant le rapport entre la foi et les cultures des peuples, car telle est l'Église, une grande richesse et une variété d'expressions où tout est reconduit à l'unité. En participant aux processions, aux pèlerinages, ses membres participent à transmettre la foi au monde, spécialement aux personnes simples. Chaque chrétien et chaque communauté est missionnaire dans la mesure où il porte et vit l'Évangile et témoigne de l'amour de Dieu envers tous, spécialement envers celui qui se trouve en difficulté. Un message adressé à ses confraternités, mais valable aussi pour chaque croyant.
Olivier Bonnel est dans son tweet du jour. Le pape François a rappelé que chaque chrétien est un missionnaire dans la mesure où il témoigne de l'amour de Dieu, nous invitant aussi à être des missionnaires de la tendresse de Dieu. À l'issue de la messe, le pape a récité le Regina Coeli avant d'adresser un message à l'ensemble des fidèles. Le pape est revenu sur un thème délicat, celui des abus sur les enfants, cette journée des enfants victimes de violences. Il a tourné ses pensées vers tous ceux qui ont souffert et qui souffrent d'abus et les a assurés de sa prière. Je voudrais dire avec force que nous devons tous nous engager avec courage et sans l'ombre d'un doute afin que chaque personne humaine, spécialement les enfants qui sont parmi les catégories les plus vulnérables, soit toujours défendue et protégée. Le pape François a tenu aussi à saluer les chrétiens des églises d'Orient qui, suivant le calendrier julien, célèbrent Pâques ce dimanche. Je désire envoyer à ses frères et sœurs un salut particulier, m'unissant de tout cœur à eux pour proclamer la bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Recueilli dans la prière autour de Marie, invoquons de Dieu le don de l'Esprit Saint pour qu'il console et réconforte tous les chrétiens, particulièrement ceux qui célèbrent Pâques entre les épreuves et les souffrances, et qu'il les guide sur la voie de la réconciliation et de la paix. Fin de citation. Il n'y a pas que les confraternités à être réunies à Rome. Il y a aussi 802 religieuses, membres de l'Union internationale des supérieurs générales, venues de 75 pays. Elles sont réunies en assemblée plénière jusqu'au 7 mai. Thème central de cette assemblée, le service de l'autorité selon l'Évangile. Une des intervenantes, une bibliste italienne, a ainsi souligné que l'exercice du pouvoir ne devait pas brimer, mais être perçu comme un service, a-t-elle souligné. C'est l'heure maintenant de retrouver notre invité du dimanche. Quarante ans après la mort de Jacques Maritain, son fondateur, le Centre Saint-Louis de France à Rome revenait cette semaine sur cette grande figure de la pensée française et sur la manière dont il continue d'inspirer et de provoquer la réflexion. Parmi les intervenants de ce colloque, Michel Fourcade, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Montpellier. Il est l'invité de ce dimanche. Auteur de plusieurs études consacrées à l'histoire religieuse des intellectuels, à l'histoire du dialogue interreligieux, sa spécialité concerne les croyances et les mentalités contemporaines. Interrogé par Catherine Aubin, Michel Fourcade nous partage sa fascination précoce pour Jacques Maritain et son parcours d'historien profondément marqué par cette grande figure.
Michel Fourcade, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Montpellier et vous êtes aussi, si je peux me permettre, un peu tombé dans l'œuvre de Jacques Maritain. Comment est arrivée votre rencontre avec Jacques Maritain?
C'est donc quand j'étais en Cagne que j'ai découvert Maritain, parce que cette année-là, on avait deux sujets. En histoire, on avait la Seconde Guerre mondiale, et puis en philo, on avait le mal. Et à la bibliothèque de ma classe prépa, il y avait deux livres qui étaient poussiéreux, que personne n'avait dû lire depuis bien longtemps. Un qui s'appelait « À travers le désastre », et qui a été le tout premier livre clandestin en France, publié aux États-Unis par Maritain en 1941, mais qui a été le premier livre clandestin en France. Et l'autre livre qui était « Dieu et la permission du mal ». Il se trouve que je suis tombé sur ces deux livres et que je les ai trouvés géniaux tous les deux. Et je me suis demandé qui était assez génial pour être à la fois pertinent donc dans les questions les plus compliquées de la métaphysique, le mal, la permission du mal, la liberté de l'homme, etc. Et puis en même temps, tout à fait engagé et avec une très grande acuité du regard et du jugement politique, pour avoir écrit aussi à travers le désastre. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Maritain. Et puis après, ben voilà, je suis tombé dedans et j'en suis jamais sorti. J'ai lu Les Grandes Amitiés de Raïssa et j'ai découvert ces Mauriac qui parlaient de l'envers du siècle. Et donc jusqu'alors, le XXe siècle que je connaissais n'était pas très glorieux. Et donc là, ça m'a permis de découvrir tout un autre siècle, toute une autre dimension de la culture. Et donc maintenant, ça fait bien longtemps, mais j'ai jamais épuisé Maritain.
Et justement, dans votre spécialité, c'est croyances et mentalités contemporaines. Comment vous avez fait fructifier votre connaissance de Jacques Maritain à l'intérieur de ses spécialités ?
Alors, vous savez, chaque université a ses spécialités. Et à Montpellier, grâce à mes prédécesseurs, on a une longue tradition d'histoire religieuse, plutôt d'histoire religieuse moderne, de l'époque des guerres de religion, etc. Puis après, de l'histoire religieuse contemporaine. Et donc, on avait eu notamment Gérard Cholvy, qui était mon maître en histoire, et qui était qui est toujours un grand historien de l'histoire contemporaine, religieuse contemporaine. Et donc, c'était assez naturel, après, de travailler avec lui. Et quand il s'est agi de choisir un sujet, d'abord pour mon DEA, puis pour ma thèse. J'ai dit, mais pourquoi pas Maritain, puisque j'avais donc été impressionné par Maritain. Et bon, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de travaux historiques, enfin, il n'y avait pas du tout d'ailleurs de travaux historiques qui existaient, mais il y avait un énorme fonds d'archives qui n'avait pas été encore utilisé, qui était en voie de classement. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter de ce fonds d'archives et de pouvoir faire donc une grande thèse sur les réseaux de Maritain, les évolutions internationales de sa pensée. J'ai pas du tout épuisé le sujet, moi je me suis arrêté en 1939, mais ça faisait déjà 1500 pages, donc il fallait s'arrêter.
Et le titre justement de votre travail, « Feu la modernité, point d'interrogation, Maritain et les maritainismes ». Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, mais Maritain s'est d'abord fait connaître, on pourrait dire, en jetant des cailloux dans les fenêtres de son temps. Et notamment, un de ses premiers livres, qui a été beaucoup reproché, s'appelait « Antimoderne ». Et il avait expliqué d'emblée, pourtant, qu'il s'agissait d'être antimoderne pour être ultramoderne. Et donc, la dialectique de la modernité qu'il avait nouée, c'était un point de vue critique sur la modernité, à la fois pour sauver ce qu'il appelait les vérités captives qu'il y avait en elle, tous les accroissements, tout ce qui était important dans la modernité, et en même temps pour la dépasser, surtout c'est l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ça s'écroule un peu de tous les côtés, enfin dans la période des totalitarismes, et donc sauver ce que l'aventure de la modernité contenait de meilleur, mais en la dépassant. Et donc c'est pour ça que feu la modernité, c'était pour signifier qu'il y a bien eu une période de l'histoire qui s'est achevée dans l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, disons, et puis la décolonisation, et qu'il s'agit donc de construire quelque chose au-delà de la modernité, non pas contre la modernité, mais en sauvant tout ce qu'elle a pu contenir de positif, tous les accroissements qu'elle a pu faire sur la connaissance de l'homme, notamment, et simplement sans se laisser couler, avec aussi ses erreurs et ses épuisements, voilà.
Pour celui qui ne connaît pas Maritain et qui vous écoute en ce moment, quelle est la façon d'entrer dans ce que vous avez découvert de Maritain ?
Alors, c'est très compliqué parce que Maritain est plein de voies d'accès. En effet, aujourd'hui, on est dans un état de la culture qui est très déconstruit. C'est-à-dire que très peu de gens arrivent à avoir une culture qui soit complète, où il y a à la fois la spiritualité, de l'art, de l'esthétique, de la philosophie, de la théologie, des sciences humaines. Et donc, on est tous ultra spécialisés. C'est très difficile d'avoir une pensée où tout circule. Et donc, Maritain, justement, il nous présente, avec son épouse Raïssa, le cas d'un couple où tout a toujours circulé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une porte d'entrée sur la vie d'oraison, la vie contemplative, et toute leur vie, ils ont vécu ce qu'ils appelaient la contemplation sur les chemins. Il y a aussi une porte d'entrée sur l'art, tout leur dialogue avec un nombre incroyable d'artistes, de musiciens, de compositeurs, de poètes, etc. Raïssa elle-même était poète, et Maritain a une approche, ce qu'il a d'abord fait connaître dans les milieux laïcs, c'était justement la pertinence de son approche esthétique, puisqu'il a tiré de saint Thomas toute une philosophie de l'art et de l'intuition. Et puis il y a bien sûr une porte d'entrée métaphysique et une porte d'entrée théologique. Donc selon les goûts personnels de chacun, il y a plusieurs manières d'arriver à Maritain. Alors après, la voie d'accès la plus simple, c'est d'abord l'aspect biographique, donc de commencer par lire les mémoires de son épouse, mais qui concernent que leur tout début, leur commencement chrétien, qui sont les grandes amitiés. Et puis après, on choisit et on n'a que l'embarras du choix pour pénétrer. Alors après, ce qui est important justement, c'est de ne pas en rester à un seul aspect de Maritain, mais de profiter justement de cette pensée où tout circule et on s'en retrouve enrichi dans à peu près toutes les dimensions.
Voilà. Michel Fourcade, c'est un compagnonnage quand même avec Jacques Maritain dans votre travail, mais aussi dans votre foi. La question qui me vient, c'est s'il n'y avait pas eu Maritain dans votre vie professionnelle.
J'aurais été tout à fait différent, c'est certain. J'aurais été quand même chrétien. Maritain n'est pas quand même la seule source à laquelle j'ai bu. J'ai quand même eu la chance d'abord d'une famille solidement chrétienne, et puis l'expérience aussi du scoutisme. Et puis également, avant Maritain, j'avais d'abord été un disciple, je le suis toujours, de Olivier Clément, le penseur orthodoxe, dont j'ai beaucoup reçu aussi au point de vue de la théologie spirituelle. Justement.
Et là, vous l'avez rencontré par quel moyen ?
Olivier Clément, il se trouve que ma famille était abonnée à France Catholique, et chaque semaine, Olivier Clément faisait un très bel article dans la France catholique. Alors, je ne lisais que ça dans la France catholique, quand j'avais donc 18 ans aussi. Et il se trouve aussi qu'il avait des attaches montpellierennes. Il repose d'ailleurs aujourd'hui dans un village pas très loin de chez moi. Et donc, il m'est arrivé comme ça de pouvoir le croiser sur Montpellier. Et donc, alors ceci dit, Maritain, bien sûr, après, m'a permis de penser à autre chose, différemment, enfin, de toucher des problèmes qu'Olivier Clément ne touchait pas. On n'est jamais l'homme d'un seul auteur, mais naturellement, les auteurs sont plus ou moins importants dans l'itinéraire.
Et il y a aussi un livre que vous avez écrit avec d'autres aussi, « Les dialectiques de l'ascèse ». Qu'avez-vous voulu montrer dans ce livre ?
Alors, on organise donc de temps en temps une bonne partie de l'activité historique. Ce sont des colloques qui permettent de réunir différents spécialistes de différentes périodes et puis parfois de différentes religions. Parmi ces colloques, celui sur les dialectiques de l'ascèse, son intérêt c'était de réunir des spécialistes aussi bien de l'histoire antique et de la pensée antique et de la pensée païenne antique jusqu'aux évolutions donc religieuses contemporaines. Et alors, moi, la dialectique que j'ai notamment explorée, c'est le grand débat qu'il y a eu dans l'Église au début du XXe siècle entre les voies ascétiques et les voies mystiques. Et c'était un moment où on se méfiait encore de la mystique dans l'Église catholique et où l'ascèse était supposée satisfaire tout le monde, mais la mystique, depuis les guerres de religion, on y voyait une graine d'individualisme dangereux, etc. Et Maritain, justement, et les thomistes, le père Garrigou Lagrange, qui a enseigné ici à l'Angelicum et quelques autres, ont beaucoup œuvré pour rappeler que tout le monde était appelé à la contemplation. Et pas simplement dans quelques visionnaires, mais les laïcs eux-mêmes étaient appelés à la contemplation. Et Maritain a montré ensuite qu'il y avait plusieurs manières de vivre, bien sûr, ces dons contemplatifs, que ce n'était pas uniquement, bien sûr, de l'ordre de phénomènes extraordinaires ou des extases, etc., mais que chacun, en fonction des dons de l'esprit, avait une manière de connaître cette vie contemplative. Et donc ça a préparé, lointainement, l'enseignement ensuite qui sera celui de Vatican II, et comme quoi tous les laïcs et tout le monde est appelé à la sainteté. Ça a été sur le plan théorique, disons, ce qui a pu accompagner en même temps, sur le plan spirituel, le message de Thérèse et l'enfant Jésus. Donc voilà, c'est tout ce mouvement-là qui a permis de rééquilibrer la vie spirituelle, non seulement autour de la cèse, mais également autour de la mystique.
Et quand Jacques Maritain parle de la contemplation, comment en parle-t-il ?
Les Maritains ont une vocation tout à fait contemplative d'emblée. Parmi leurs premiers maîtres, après leur conversion, il y a eu notamment les bénédictins de Solesmes, et donc de la congrégation de Solesmes, et ils ont été oblats. Bénédictins, ça a été une sorte d'école spirituelle pour eux, pendant les premières années, en tout cas, de leur parcours. Alors ensuite, évidemment, ce sont des laïcs qui ont vécu tous les engagements du siècle, et donc ils n'ont pas vécu la contemplation comme des religieux peuvent la vivre, mais c'est quelque chose que Maritain et que Raïssa a beaucoup développé dans son propre journal. C'était ce qu'elle appelait donc la contemplation sur les chemins. Vous savez que Maritain est mort petit frère de Jésus, et donc ça a eu un rapport avec son propre engagement final chez les petits frères de Jésus, où il y a une parenté entre un certain nombre d'intuitions, donc de Charles de Foucault, de Thérèse et l'Enfant Jésus, et puis de Raïssa, dans sa vie spirituelle. Comment vivre cette contemplation au jour le jour, dans toutes les tâches quotidiennes? Comment réserver à Dieu une place? Et dès 1922, les Maritains avaient publié un petit livre qui s'appelait « De la vie d'oraison ». Donc comment mettre la vie d'oraison, justement, à la portée des laïcs dans les soubresauts, on pourrait dire, du quotidien. Et non seulement peut-être dans le temps qu'on peut réserver dans la vie quotidienne, mais même la dimension contemplative qu'on peut avoir dans toute œuvre, dans tout travail, dans le travail même, il peut y avoir une dimension contemplative, et quel que soit le travail, pas uniquement le travail intellectuel, ou à partir du moment où le travail peut être sanctifié, il y a cette dimension contemplative qui peut être vécue.
C'était Michel Fourcade interrogé par Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va. En attendant, je vous donne rendez-vous demain même lieu, même heure.